Ah, juste quelques remarques. Bon, sur le premier, le deuxième et le troisième dans l'ordre, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de réactions, donc on continuera la discussion, j'espère, soit par oralement, soit par mail, soit à d'autres occasions. Parce que sur la première, moi je suis un peu surpris, parce que là encore, quand on change l'angle d'attaque, quand on regarde vraiment les acteurs, alors il y a dans le papier, il y a un petit point sur les sociologues, par exemple, auraient tendance à, ou les politistes, à zoomer sur des groupes un peu mobilisés. Et il y a ce problème de la population générale et donc du décrochage entre des groupes minoritaires, des small groups, big problems and small groups, le fameux mot d'ordre. Et de l'autre côté, effectivement, des enquêtes quantitatives sur les gens et l'environnement. Évidemment, les deux approches ont des problèmes méthodologiques, puisque qui représente qui parle au nom de qui. Donc ça, il me semble que le papier, finalement, va un peu vite sur la manière de déployer des obstacles. Alors, tantôt individuel, tantôt plus sociologique, avec des inégalités structurelles, tantôt institutionnelles, mais en tout cas, on regarde des facteurs sociaux qui seraient des blocages. Et donc, si le GIEC nous fait un truc là-dessus, effectivement, la sociologie est décidément un sport de combat, parce qu'on va être obligé quand même de dire, attendez, c'est quand même plus compliqué que ça. Donc, je voudrais avoir un point de vue sur le rôle de toutes les médiations qui sont maintenant quand même vachement présentes. Je prends les gaz de schiste, par exemple, qu'on a beaucoup suivi en un an, où ça a été prévu, cette affaire-là. Le NIMBY, là, c'est pas du NIMBY. On a des mobilisations qui ont fédéré à la fois des acteurs critiques déjà constitués largement sur les OGM, etc. Pas seulement en France, au Québec, etc. Aux États-Unis, ça passe plus par les procès et on a vu Gaslamp, tout le monde l'a vu. Donc, il y a quand même une autre. Donc, il y a des modes de protestation médiatique, des mobilisations avec des ONG extrêmement capables de relancer la critique à tout moment et des formes de débats publics et de confrontations. Qui font qu'il y a quand même des médiations, que population générale qu'on va sonder avec des contrats européens pour voir en gros où en sont les Slovènes ou je sais pas quoi sur l'environnement, etc., faire des classements, un peu comme pour la corruption, où on fait des classements transparency, tout ça. Et de l'autre, des individus qui seraient, ben oui, la mamie quand même prendre le bus, quand même il y a eu une agression la semaine dernière. On voit bien quand même entre les deux, il y a tout un déploiement. Donc, comment vous traitez ça? Voilà, c'est la première question. J'en aurai plein d'autres. Hein. Passons. Sur le deuxième, moi, mon souci, alors ça rejoint tout à fait les questions que tu as posées avant moi, mais c'est plutôt les entrées sur le terrain. C'est-à-dire que finalement, ce que vous nous avez montré, c'est quand même une vision très distante, très à distance. Alors évidemment, il y a les contraintes de la comparaison, mais justement, trois questions là-dessus, pour questions méthodologiques, vraiment de pragmatisme pur. Comment ces pays entrent eux-mêmes en interaction? Parce que le monde arabe, bon, ok. La révolution arabe, la rue arabe, on a comme ça des espèces d'entités. Donc, en sociologie, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde un peu comment elles fonctionnent, pour qui. Et donc, comment les acteurs du monde arabe, et en tout cas les trois que vous avez, puis interagissent et construisent eux-mêmes, ou non, des points de comparaison. Comment ils plutôt, parce qu'on a l'impression que finalement, ils regardent l'agenda international, ils vont dealer des aides financières, en gros, je caricature, mais voilà. Et après, ben, ça va rester finalement très concentré sur quelques bureaucrates et quelques agences plus ou moins privées qui vont dealer avec d'autres acteurs. Et puis, il y a les isolés. Alors, les petits acteurs, il y a eu la formule, ben, ça n'existe plus, un petit acteur. Un blogueur, vous foutez la pagaille. C'est fini, ça. Donc, comment vous traitez les changements de régime? Alors là, en l'occurrence, quand même, c'est bizarre. Enfin, votre truc est très rétrospectif. Mais comment, justement, la critique sociale ou la critique radicale, là, qui a quand même décollé, on peut le dire, de manière dure, même en cas de la Syrie, on est quand même à l'extrême de la violence politique. L'Égypte, c'est largement parié. Le Maroc s'en sort apparemment mieux pour des raisons historiques, mais ça serait intéressant d'avoir votre point de vue sur comment, justement, comme la contestation n'avait pas été organisée en amont de manière explicite, comme elle a pu l'être dans nos sociétés, disons, européennes centrées ou aux États-Unis avec des protestations fortes qui durent pendant des années avant d'accoucher quelque chose, là, tout à coup, les choses sortent d'un coup, et comment ça peut produire des reconfigurations? Donc, deux questions, les entrées sur le terrain, comment vous faites concrètement, à qui vous allez voir, par où vous passez, et deux, comment vous traitez justement ces changements de régime que produisent tout à coup des déplacements de l'enjeu démocratique dans lequel le développement durable est forcément touché. Enfin, je veux dire, comme c'est pas forcément la cible première, mais ça produit forcément des redistributions de pouvoir et de connaissances. Ensuite, sur la sociologie comme sport de combat critique avec des acteurs qui imposent, qui configurent nos programmes, évidemment, on a tous vécu ça. Moi, j'ai vécu notamment dans le nucléaire. Ça, alors là, pour le coup, quels que soient les points d'entrée, c'est assez difficile, alors que ce soit les pros ou les anti. très difficile de construire en chambre. D'ailleurs, il n'existe pas en France. On va essayer peut-être de faire un colloque là-dessus avec les quelques valeureux qui ont essayé de travailler sur le nucléaire en France. Mais bon, il y a un problème très général. Mais moi, ça me pose quand même deux, trois choses. C'est que d'une part, je pense que la sociologie a réussi quand même à gagner des points de légitimité sur plein de domaines. Et qu'il ne faut peut-être pas sous-estimer le type de révérence qu'ont malgré tout les sciences dures pour les sciences sociales. Parce que c'est paradoxal. C'est une relation. Donc je voulais voir. Je pense que les climatologues, je les connais bien, je les fréquente beaucoup, et évidemment, ils m'invitent dès qu'ils se campent en lanceur d'alerte. Ouais. Bah, ils appellent. Voilà, il se trouve que c'est moi qui ai créé cette notion il y a déjà 15 ans. Et donc là, c'est la sociologie qui l'a créée, et elle leur sert beaucoup. Donc quand ça leur sert, effectivement, dans certaines arènes, ils ont besoin de support sociologique pour donner du contenu et de l'appui conceptuel, pour ne pas dire n'importe quoi, et pour montrer, vous voyez, ça va dans le sens de ce que montrent bien les sciences sociales. Quand on lance une alerte, il faut obtenir telle ou telle conséquence sur les politiques publiques, surtout quand il y a des climato-sceptiques qui vous tombent dessus. Et je me rappelle d'un colloque organisé par Politis et quelques personnes mises en cause par Claude Allègre personnellement, où il m'avait demandé d'expliquer pourquoi les climato-sceptiques n'étaient surtout pas des lanceurs d'alerte. Parce que Claude Allègre avait dit à un moment donné que vous aussi étiez lanceurs d'alerte. Donc on voit bien qu'il y a des phases, il y a des contextes. Alors ça a été vrai avec Bourdieu, dans certains contextes, où il a été appelé au secours, etc. Bruno Latour, dans son... C'est vrai qu'il y a plein d'exemples. Alain Touraine, enfin bref, on peut multiplier, et pourquoi pas Baudrillard et Beaubourg. Finalement, la configuration des expos aujourd'hui est largement un résultat. Donc il y a un succès considérable de certaines sociologies, c'est vrai aussi évidemment aux États-Unis ou ailleurs. J'en parle beaucoup avec Sheila Jasanov, par exemple, qui configure énormément de choses, notamment, vous prenez la NSF, la National Science Foundation, qui finance énormément de choses aux États-Unis, elle est bourrée de STS. Elle a une espèce de réseau neuronal Science Studies. Donc il y a des effets de configuration. Donc ça, c'est étonnant parce que du coup, ça m'amène à une deuxième question, voire une troisième, je vais très vite parce que du coup, je peux pas entrer. C'est d'une part la trame verte finalement là-dedans. On l'a un peu perdu de vue, donc là, je vais faire mon petit latour illustré. Non, finalement, pourquoi pas rentrer par une trame verte et voir concrètement comment tous ces partages. Et comment même la position du sociologue se définit en tant qu'observateur en entrant dans des interactions, il me semble que c'est un point qui peut satisfaire tout le monde. Parce que finalement, remettre, c'est au fond, c'est presque faire un documentaire animé, mais il y a une dimension, je trouve, de montrer comment la réflexivité fonctionne en entrant dans l'objet. Alors, je sais que j'ai fait sur les centrales nucléaires et ça a marché. C'est-à-dire que j'ai montré comment je rentrais dans la centrale et les problèmes pour entrer, pour sortir, pour en dire quelque chose, y compris de description technique. J'étais obligé de décrire ce que c'était que la borication. Bon, finalement, c'est pas si compliqué. Alors, comment on met du bois, de l'eau, dans les tranches de 900 MW. Et c'est vrai qu'on finalement, on y arrive. Donc, il y a le récit des acteurs, il y a les interactions qui nous amènent vers les objets et qui disent énormément de choses concrètement sur la relation. Donc, comment tu vois l'avenir de cet objet-là, je crois. Le troisième point, c'est plus sur la question de la nature et de la technique. Je pense qu'il y a un risque quand la sociologie, effectivement, pousse la critique sur la techno. Parce que, finalement, la sociologie est elle-même issue finalement, de cette modernité et a un rapport à la technique qui est forcément à élucider de bout en bout. Ses propres technologies sociales d'existence. Des rosières, la statistique, tout ce qu'on veut, par exemple, tout ça, c'est des techniques aussi. La manière dont on pose les écritures, aujourd'hui le web, etc., on est bourré de techno. Et finalement, le rapport nature-technique me semble dramatisé d'une étrange façon. Alors, je ne connaissais pas Gimpel, je ne l'ai pas lu. Mais par contre, j'ai lu Simondon. Et il me semble que pourquoi finalement pas aller chercher dans cette tradition qui a beaucoup travaillé la relation entre l'artefact, le milieu associé. Le calcul et la représentation un peu formalisée et les échanges d'énergie qui sont effectivement là une source où finalement il n'y a même pas besoin de prendre un point de vue critique qui remet finalement en éco-sociosystème le fonctionnement des techniques, etc.
C'est fou qui répond.